voyage.
Bien-être et santé.
Musique.
Mode et beauté.
Trucs et astuces. Dans
100% Lifestyle.
Bonsoir à tous, bonsoir les amis, vous êtes bien sur RDL 103.5 FM, mais également depuis le player internet pour tout partout dans le monde, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous écouter. Oui, je rêve un peu en parlant du monde, mais ce sera sur le player RDL68.fr et on est parti pour une heure de direct, mais bien sûr, je ne suis pas seule, ce soir avec moi, il y a notre habituel Yann, bonsoir.
Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Oui, c'est 100% Lifestyle, comme tu l'as si bien dit pendant une heure, avec des sujets assez épique aujourd'hui, on va pas se mentir, Anne-Claire.
Ah bon, épique, je vois pas de quoi tu parles, ah, franchement.
Très épique, mais essentiel malgré tout, mais oui, très important.
Mais toujours essentiel, tu sais que dans 100% Lifestyle, on parle de tout et sans tabou, et c'est tout de suite avec le sommaire.
Eh bien, allons-y sans plus attendre et dis-nous tout, surtout Anne-Claire, mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans ce sommaire?
Écoute, on commencera avec En route pour l'aventure et ce sera les plus belles chutes d'eau au monde. Dis donc, tu nous fais voyager à travers les cascades ce soir.
Ah oui, c'est le principe d'En route pour l'aventure. Et puis juste après, on trouvera sur ta minute soignante avoir une bonne hygiène intime féminine. On change totalement de sujet, mais c'est pour la bonne cause.
On poursuivra avec Chanson Story et c'est Michael Jackson avec le célèbre titre Billie Jean en 1983 que nous entendrons résonner dans nos oreilles.
Et vous découvrirez énormément d'anecdotes sur l'histoire de la chanson, franchement. Ça vaut vraiment le détour. Restez bien avec nous, d'autant qu'après, il y aura la question des auditeurs avec, c'est vrai, une très très bonne question. Comment sont nommées les tempêtes? Malheureusement, il y en a de plus en plus, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de prénoms, effectivement, derrière ces tempêtes. Tu vas nous expliquer pourquoi et puis tu enchaîneras après avec tes trucs et astuces autour des produits ménagers maison. Encore tout un programme.
Et oui, la maniaque que je suis me poursuit même jusqu'à la radio et je vous donne de sacrées astuces et sacrés petits conseils de grand-mère dont certains je tiens moi-même de ma grand-mère. Mais ce sera sans finir l'émission avec le célèbre Piégeons-nous. Je sais que vous l'attendez comme moi chaque semaine. Je sais aussi que c'est votre chronique préférée parce que vous adorez savoir que Yann perd. Parce que Yann perd à chaque fois. Bon, moi aussi, mais ça, ça compte pas.
Surtout que, à mon avis, tu risques de perdre sur cette question-là aussi. Mais on verra.
Mais je perds chaque semaine, de toute
façon. De l'émission. Ouais, mais des fois, t'es pas loin. Là, on verra. Ce sera dans une heure, à la fin de l'émission.
Alors, tout de suite, en route pour l'aventure. Et en route pour l'aventure, ce soir, c'est les plus belles chutes d'eau au monde.
Ah, si vous n'aimez pas l'eau, cette chronique, c'est sûr, elle va pas vous plaire. Hein. Ça sera pas pour vous. Ah bah oui, parce qu'on va parler que de ça aujourd'hui. Et la preuve, on l'entend. Ouais, je sais, ça fait rêver. Hein, parce que faut dire que ce monde regorge de sites naturels, hein, dont des chutes d'eau, bien sûr. Certaines sont une frontière naturelle entre deux pays, tandis que d'autres sont larges, longues, voire même assourdissantes. Alors, petit tour d'horizon choisi de quelques-unes qui valent le détour, qu'elles soient connues ou bien moins connues.
Et on commence par des chutes d'eau hyper connues qui se situent entre deux pays. Serait-ce une frontière naturelle?
Oh oui, et il y en a même trois très connues, ce sera juste après ça.
Mais je dois m'en aller.
Tant qu'à faire, autant partir. Bah oui, chutes d'eau, ces cascades. Ah bah oui, autant parler d'emblée de la plus connue, évidemment. L'une des plus majestueuses causée par la rencontre de la rivière Niagara, d'où le titre, vous l'aurez compris, qui relie le lac Erie au lac Ontario, deux des cinq grands lacs qui bordent une partie de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Je parle des chutes du Niagara, vous les aurez reconnues. Un rideau d'eau en forme de fer à cheval gigantesque de 820 mètres de large pour 57 mètres de haut. Je ne sais pas si vous visualisez bien, c'est juste énorme. Je vous laisse aussi imaginer le bruit énorme aussi que ça fait, Anne-Claire. T'es déjà allé aux chutes du Niagara, toi ?
Oh bah bien sûr que oui, tout à fait.
Bah oui, t'y vas tous les jours, toi.
Voilà.
Ah oui, quand tu dors, surtout. Voilà. Bah oui, effectivement. Un rideau d'eau en forme de fer à cheval. Mais alors, pourquoi parle-t-on de chute du Niagara au pluriel, à ton avis, Anne-Claire ?
Parce qu'il y a plusieurs... comment ça s'appelle ? Il y a plusieurs endroits où... Où l'eau tombe ?
Alors, il y en a trois. Ouais, ces chutes, ce sont 14 millions de touristes chaque année.
Ah, je croyais que t'allais me dire 14 millions de litres d'eau. Je dirais que ça fait pas beaucoup.
Non, quand même pas. J'ai pas le chiffre pour cette chute, mais j'en ai pour les suivantes. Ça donne le tournis, hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Par contre, ce qui est dingue, c'est qu'avec ces 57 mètres de haut, c'est qu'aux extrémités de ces chutes, tu as la falaise. Et au-dessus, tu as un parking et plein de routes pour pouvoir la visiter de tous les angles.
Du coup, ça a de la dénaturer complètement. Je trouve que c'est plus comme avant.
Ah, mais ça dépend hein, comment elle est née aussi, cette chute d'eau, il y a des millions d'années. Enfin, des millions d'années, peut-être pas, mais des dizaines de millions d'années. Des dizaines de milliers d'années.
Est-ce que tu sais comment elle est née ?
Non, je sais pas. Non. Ah. Mais en tout cas, ça fait longtemps. Qu'elle existe, en tout cas. Tout comme la suivante, hein, dont on va parler, puisqu'il y en a une aussi de connue en Amérique du Sud, cette fois, qui offre une frontière naturelle entre l'Argentine et le Brésil. Ce sont les chutes d'Iguaçu. Ça, je sais que tu connais, Anne-Claire.
Oui.
Au moins de nom.
Oui, au moins de nom. Je me souvenais de l'Argentine, mais je ne sais pas pourquoi, je ne voyais plus du tout ça collé au Brésil.
Si, c'est collé au Brésil. Bah, là, y a eu quand même une sacrée frontière
entre l'Argentine
et le Brésil. Les chutes d'Iguaçu, c'est un alignement de 275 cascades le long de 2,7 km.
C'est incroyablement
c'est
beau.
Énorme. Et n'en jetez plus, vous en voyez partout. Ah bah, c'est ce qui s'appelle une cascade de cascades. Hein. Parce que là, pour le coup, Anne-Claire, tu as 6 millions de litres d'eau déversés chaque seconde.
Ah oui, c'est plus que ma chasse d'eau.
Oui, bah heureusement en même temps, parce que sinon là, il y aurait un sacré problème hein, quand même. Hein. Tu devrais payer des millions d'euros chaque année, pardon, pour ta chasse d'eau. Bon appétit si vous êtes à table, mais enfin là quand même. On rêve de chute d'eau, tu nous parles de ta chasse d'eau, toi.
Chasse d'eau, chute d'eau, écoute, on n'est pas très loin.
Oui, enfin, uniquement dans la prononciation, hein, parce qu'en l'idée même, on est très très loin, heureusement.
Ah bah c'est sûr que je préfère les chutes d'Iguaçu et de Niagara que...
C'est sûr que c'est pas dans tes chutes d'eau à toi, dans ta chasse d'eau, qu'on sentira les embruns qui montent vers le ciel. Hein,
non,
c'est sûr,
pas tout, non.
Qui retombent sur la nature environnante, hein, laissant tout un écosystème. Et 2000 espèces végétales, des caïmans, des jaguars, des oiseaux, des papillons, bref, tout ça c'est autour des chutes d'Iguaçu. Et petit conseil, si vous voulez les voir, le côté brésilien apporte une belle vue d'ensemble sur toutes les chutes, tandis que la rive argentine est plus sauvage, avec plus de sentiers aussi, plus de belvédères pour pouvoir les voir, mais aussi randonner juste à côté. Quelle est la période idéale ? Eh bien, c'est l'automne, après la saison des pluies, et il y a même plusieurs films aussi qui ont choisi ces décors naturels hein, de OSS 117, le film français, à Moonraker, un James Bond, voilà, ces deux films, par exemple, eh bien, ont eu les chutes d'Iguaçu comme décor.
Ça devait être magnifique en film, et surtout à filmer, ça doit vraiment pas être facile, je dirais.
Ah oui, je confirme, d'autant qu'il y a enfin évidemment une dernière incontournable entre deux pays cette fois, entre le Zimbabwe et la Zambie. Bah, les chutes Victoria, évidemment. Ah bah oui, je pouvais pas ne pas en parler, en hommage à la reine Victoria, hein, la reine d'Angleterre. Le fleuve Zambèze dévale une gigantesque faille de plateau de 1700 mètres de large sur 108 mètres de haut. Alors autant vous dire que le rugissement est vraiment impressionnant. Et pas étonnant aussi si ces chutes sont appelées dans le dialecte local Mossi Oatunia, c'est un petit peu ce qu'on entend, ça veut dire la fumée qui gronde.
Oh, en fait. C'est beau.
Voilà, bah oui, t'as des vues plus dégagées du côté du Zimbabwe, de ces chutes Victoria, mais voilà, c'est franchement magnifique. On a fait plusieurs continents sur trois chutes d'eau, mais c'est les plus incontournables forcément.
Et si on sortait un peu des sentiers battus avec des moins connus et... Je dirais aller comme ça, à la louche. On va faire un tour à l'est du Venezuela.
Ah bon, qu'est-ce qu'il y a à l'est du Venezuela alors?
Bah, je dirais qu'il doit bien y avoir 2-3 chutes d'eau, non?
Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une vertigineuse. C'est la chute d'eau. Eh oui, on va en parler d'une. La chute d'Angel. Est-ce que tu connais là comme ça, Anne-Claire?
Alors, la chute d'Angel, pas du tout. Moi, je connais la chute de Rhin.
Ah oui, non, c'est pas la même chose. Non. En fait, la chute d'Angel, c'est du nom de Jimmy Angel, un aviateur américain hein, qui fut le premier à survoler le lieu en 1933.
Ah, je croyais qu'il était tombé.
4 ans plus tard, il meurt.
Ah merde, donc, oui. Pardon. Bon, bah voilà.
Merci Anne-Claire pour cette délicatesse. Alors, c'est simple, hein. Elle détient le record, cette chute, du saut le plus haut du monde, avec sa chute jusqu'à 979 mètres. C'est 19 fois les chutes du Niagara. Hein. Ah oui.
Incroyable.
Niveau hauteur, elle se jette de la montagne du diable, un haut plateau bordé de falaises à reculer et difficile d'accès. Le mieux, c'est de venir en pirogue, hein, en remontant le fleuve Caroni à proximité. Bon, par contre, bonne chance parce que ça dure 3 jours hein, quand même. Hein, donc, prévoyez les vivres quand même, c'est peut-être mieux. Elle est vraiment très isolée, hein, vous la voyez difficilement. Mieux vaut la voir entre mai et octobre, pendant la saison des pluies, puisqu'elle est moins impressionnante hein, le reste de l'année. Et l'endroit est tellement reculé qu'il a inspiré Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, pour un autre de ses romans qui a inspiré Jurassic Park.
Oh, incroyable!
Eh oui, et ça, c'est dans l'est du Venezuela. Je me souviens, c'est vrai que dans le film, par exemple, Jurassic Park, oui, t'as une espèce de grande chute d'eau comme ça, assez petite, mais très très, enfin très petite, j'allais
très
dire,
haute.
En diamètre, mais très très haute. Oui. Eh ben, c'est ça, la chute d'Angel. Vous avez d'ailleurs l'ensemble des photographies de ces chutes d'eau sur la page Facebook 100% Lifestyle. Vous avez une publication. On vous a mis toutes les chutes d'eau dont on parle, comme ça, c'est visuel, et vous pouvez mieux la voir à défaut de l'entendre.
Et dis-moi, parce qu'on a fait un peu les pays du monde autour, on a été même faire un tour au Venezuela, tu n'aurais pas une en Europe à aller nous découvrir ?
Mais pourquoi une, Anne-Claire ?
Ah, il y en a plusieurs !
Il y en a plusieurs, mais oui, je sais que toi tu aimes bien, toi. Donc du coup, eh bien, il y en a plusieurs, et on va commencer par une dans le sud-ouest de la Norvège, si tu veux bien. Je sais que c'est, je crois que c'est un pays ou en tout cas une destination que tu aimes bien, que
j'aime
tu apprécies.
J'aime la Scandinavie.
Hein. T'aimes bien la Scandinavie, toi. Donc, je t'emmène à 350 km d'Oslo, la capitale, au sud-ouest de la Norvège, avec le Langfoss. C'est haut de 600 mètres. Alors, mieux vaut y aller là, au début de l'été. Hein. On va arriver à avoir la saison idéale. Et contrairement au Venezuela, celle-ci est très très simple d'accès. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as une route qui se trouve au pied de la cascade, avec un parking pour s'y arrêter. Oh. La cascade passe en dessous même de la route et elle continue ensuite un petit peu plus bas. Tu peux la voir à quelques mètres seulement. Elle s'écoule d'une montagne. C'est vraiment magnifique. Là aussi, vous avez une photo sur la page Facebook de 100% Lifestyle. Il y en a beaucoup aussi en Islande, des chutes d'eau, dont la plus puissante chute d'eau d'Europe dans le nord de l'Islande, avec un débit entre 200 et 600 mètres cubes par seconde. Ça déménage. En tout cas.
Effectivement, hein. Ça a bien arrosé les fleurs à côté.
Oui, effectivement, ça arrose tout, d'ailleurs, sur son passage. Elle prend sa source dans une région volcanique, hein, forcément, l'Islande, évidemment, c'est le pays idéal pour ça, on en a déjà parlé. Et t'en as une autre de 65 mètres de hauteur, où tu as un sentier permettant de passer derrière la cascade avec une très belle vue islandaise, surtout lors du soleil couchant. T'as la cascade, t'as un peu le soleil couchant, tu vois un petit peu derrière la cascade, c'est vraiment magnifique. Y a qu'en Islande, limite, que tu peux voir un paysage aussi énorme.
Et on peut passer derrière le rideau d'eau ?
Oui.
Oh
oui, oui, oui,
oh,
tu peux. Oui, oui, tu peux, je te confirme, oui. Et puis ben, en France, tu as la cascade du Hérisson aussi dans le Jura, qui est visitable hein, tout au long de l'année avec ses paysages qui diffèrent de l'été à l'hiver. T'as un sentier de 7 km aller-retour de près de 3 heures quand même. C'est une très belle balade, une très belle randonnée et une cascade magnifique à voir absolument. En plus, c'est pas si loin que ça de l'Alsace.
Moi, j'ai une anecdote sur les cascades là. Toute première cascade que j'ai vue et qui fait que maintenant encore j'aime les cascades, c'est la cascade de Six Fers à Cheval. C'est ma grand-mère qui m'y a emmenée. Elle est magnifique, cette cascade.
Elle se trouve où, en Picardie ?
Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à
chez
fait.
Ta grand-mère ? Non,
non,
arrête.
Mais non. Du côté de Chamonix, si je ne me trompe pas, je
ah
crois
oui,
que c'est par là.
C'est plus plausible, effectivement, dans voilà. Les montagnes des Alpes.
Exactement, ah, tout oui. À fait. Après les cascades en Europe, j'espère que tu m'as encore fait plaisir. Dis-moi que t'as un bonus, une insolite. Pour moi.
Alors franchement, c'est rien que pour toi parce que tu me le demandes, hein. Parce que je te connais si bien.
Donc, donc tu l'as faite.
Bah oui.
Ah, oui,
évidemment. Alors c'est vrai qu'on a fait l'Europe, on a fait l'Afrique, on a fait l'Amérique. Eh oui. Eh bien, quel continent, Anne-Claire, nous n'avons pas encore fait à ton avis ?
On a fait,
Attends, l'Amérique du Nord,
l'Amérique
on a fait
Nord.
L'Amérique du Sud,
Sud.
Hein, avec les chutes d'Iguassou, on a fait l'Afrique avec les chutes Victoria,
ouais. On a fait l'Europe, ouais. On n'a pas été en Asie.
Eh ouais, mais on a un autre qu'on n'a pas fait, le pôle Sud, l'Antarctique.
Il y a des cascades là-bas ?
Parce que oui, il y a une cascade en Antarctique, mais son nom intrigue, Blood Falls. Si tu es anglophone, les chutes du sang, littéralement.
Oui.
Pourquoi, en fait, la cascade, elle n'est pas bleue, elle n'est pas blanche, elle est rouge. Eh oui, pourquoi ? Parce qu'elle a été découverte par un géologue britannique en 1911,
hein,
qui en fut le premier témoin. En fait, la raison de cette eau rouge est restée sans réponse pendant un siècle, et c'est récemment, en 2017, où une équipe a découvert un glacier à 400 mètres de profondeur, avec une eau hyper saline, très concentrée en fer, grâce à la roche volcanique qui compose son lit.
C'est ce que j'allais dire, c'est cause de sédiments, à mon avis.
Ouais, et c'est ça qui donne la couleur rouge. Alors, c'est pas une cascade, tu sais, forcément, ou avec de l'eau qui s'écoule. On est en Antarctique, hein, il fait froid, c'est de l'eau gelée, bien sûr. Mais l'eau est bel et bien rouge, elle ressemble à une cascade. Et le fort taux de sel explique aussi que l'eau ne gèle pas tant que ça, avec des températures de moins 17 degrés en moyenne. Voici donc une dernière cascade insolite appelée Blood Falls en Antarctique. Je suis sûr que tu ne t'attendais pas à avoir une plus belle chute d'eau au monde en Antarctique.
Alors non, effectivement, et en plus de ça, au cas où...
T'es déjà allé en Antarctique ?
Non. 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 Au cas où, le fait que la cascade soit rouge, c'est effectivement parce que c'est concentré en fer, mais surtout parce que le fer, au contact de l'oxygène, s'oxyde et devient rouge.
Exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'on mêle voyage et un peu de chimie aussi. Et ça, c'est magnifique. C'est 100% lifestyle, bien sûr. Et puis dans un instant, alors changement de sujet total avec ta minute soignante, toi. Hein.
Ouais, mais avant la minute soignante, il y a la minute musique.
Oui, effectivement. Peut-être, je ne sais pas s'il y a un protocole dans les bonnes hygiènes intimes féminines, en tout cas. Mais c'est bel et bien la chanson que je vous propose sans plus attendre d'écouter. C'est le dernier single de Marc Lavoine, Le Protocole. Tout simplement, un hymne un peu sur le temps qui passe, mais aussi sur le temps qui passe pas très bien d'ailleurs, hein, puisque le monde ne va pas si bien que ça. En gros, c'est un petit peu ça que dit la chanson. Le protocole de Marc Lavoine que vous entendez dans toutes les radios, y compris sur RDL. Et puis ensuite, ce sera au tour de la minute soignante d'Anne-Claire, bien sûr. Restez bien avec nous, restez bien sur le 103.5 FM. À tout de suite. Et c'était le protocole, bien sûr, de Marc Lavoine, une toute nouvelle chanson qui date en réalité d'il y a quelques mois, en 2024, mais qui préfigure un nouvel album très connu, Marc Lavoine, Anne-Claire.
Parfaitement, il a les yeux revolver, ce petit.
Oh bah oui, de toute façon, c'est elle, les yeux revolver, c'est pas lui.
Oui, bah c'est pareil, c'est lui qui l'a écrit. Oh.
C'est lui qui l'a chanté, oui, effectivement. Et puis là, je te confirme, c'est toi qui as écrit la chronique La Minute Soignante.
Tu ah bon bien...
Oui.
C'est pas toi.
Alors non, enfin je peux l'écrire, mais en tout cas je n'ai pas vécu
tout vécu de ce que je vais vous raconter non plus. Hein.
Oh bah écoute, je ne sais pas, tu vas nous dire ça dans le cadre de ta Minute Soignante. Alors dis-nous tout sur le thème du jour, voire même de la semaine, une bonne hygiène intime féminine.
Eh oui, l'hygiène intime est cruciale pour maintenir un équilibre sain de la flore vaginale. Une mauvaise hygiène peut perturber cet équilibre et entraîner des infections, des irritations et d'autres problèmes, tout comme un excès d'hygiène avec des produits inadaptés. Voici un aperçu des conséquences d'une mauvaise hygiène intime et des bonnes pratiques à adopter.
Et on entre direct dans le vif du sujet avec le déséquilibre de la flore vaginale et des risques pour la santé.
La flore vaginale, principalement composée de lactobacilles, joue un rôle protecteur en maintenant un pH acide. C'est quoi un pH acide, Yann ?
C'est inférieur à 7.
Bravo !
Et au-dessus de 7, c'est basique, et 7, c'est neutre.
Oh, mais dis donc, c'est que sa physique chimie.
Oui, bah, ne t'emballe pas, c'est la seule chose que j'ai retenue en physique chimie. Hein, c'est déjà pas mal. Hein.
Et le pH de la flore vaginale, il est compris entre combien et combien ?
Sachant que je détestais les TP de physique chimie hein, à l'école. J'avais horreur de ça. Entre 3,8 et 4,5.
Tu l'as étudié aussi en physique chimie, ça ?
Oui, bien sûr. En cours de physique chimie en direct sur RDL, en 100% lifestyle surtout.
Bon, si cet équilibre est perturbé, des infections peuvent survenir, comme vous vous en doutez, ainsi que des problèmes sur les sécrétions. Un bon équilibre en hygiène intime est crucial. Un excès de propreté, notamment avec des produits antibactériens, élimine les bactéries protectrices, comme les lactobacilles que je viens de citer, ce qui perturbe le pH vaginal et favorise donc les infections. À l'inverse, une hygiène insuffisante peut entraîner une accumulation de sécrétions et de sueurs, causant irritation et mauvaise odeur, tout ce qu'on aime.
Et bon appétit, bien sûr, si vous êtes à table.
C'est que le début.
Je confirme, pour avoir lu la chronique, on peut peut-être donner des conseils pratiques, tant qu'à faire, pour nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Se laver une fois par jour et deux fois pendant les règles. Utiliser un savon doux, sans parfum ni produits chimiques, ni forcément les savons spécifiques. Car pour certains, croyez-moi, quand on y regarde de plus près les ingrédients, eh ben on mettrait même pas ça sur notre visage. Donc je vous laisse imaginer. Hein. Et bien entendu, on se lave à main nue, pas avec un gant de toilette, c'est plein de bactéries. Donc, on va éviter d'aller mettre ça là-bas. Et on s'essuie toujours de l'avant vers l'arrière.
Et on poursuit avec les infections vaginales et urinaires, avec dans un premier temps, vaginose bactérienne.
Ah, tu connais ?
Ça donne surtout envie, vu le titre. Merci beaucoup, Anne-Claire, de me dire ça à 19h23. J'aime beaucoup un jeudi soir.
T'en prie, écoute, c'est tout pour
moi. Tu penses fort à moi.
Voilà. Elle se caractérise par des pertes vaginales anormales, grisâtres ou blanches, avec une odeur désagréable, souvent décrite comme une odeur de marée basse. Cette infection est due à la prolifération de bactéries nuisibles.
C'est quoi les odeurs de marée basse ? Les odeurs de poisson peut-être ?
Voilà, écoute, si tu veux aller faire un tour chez le poissonnier, c'est maintenant.
Avec grand plaisir.
Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble.
Et après, l'hymne des femmes avec Mathilde, une très belle chanson, Anne-Claire, que tu nous fais découvrir.
Eh oui, tout à fait. Écoute, ça va parfaitement avec la chronique, alors je ne m'en suis pas privée.
Et est-ce que ça va parfaitement sans transition avec le mycose vaginale ?
Pas tout à fait.
Parce que c'est la suite de la chronique, je précise.
Pour la mycose vaginale, les pertes sont épaisses et blanches, accompagnées de démangeaisons, de brûlures et de gonflements de la vulve. Elle est causée par la prolifération du champignon candida albicans.
Candida albicans.
Oui, c'est joli hein, comme nom.
C'est joli à prononcer, mais beaucoup moins à regarder ou à voir, je pense.
Hein. Écoute, c'est beaucoup moins sympa, effectivement, à subir.
Oui, bah, je te propose en ce cas-là peut-être quelque chose d'un peu moins sympa ou de tout aussi moins sympa, l'infection urinaire.
Oui, voilà, c'est tout aussi moins sympa.
Effectivement, aussi appelé cystite.
Causée souvent par la bactérie Escherichia coli, elle se manifeste par des douleurs lors de la miction, des envies fréquentes d'uriner et parfois des urines troubles ou avec du sang.
Et là aussi, quelques conseils préventifs peut-être, hein, Claire.
Bien sûr. Toujours uriner après un rapport sexuel pour éliminer les bactéries, ne pas utiliser de produits irritants ou parfumés, n'allez pas mettre de l'eau de Cologne hein, parce que bon, c'est pas une bonne idée. Porter des sous-vêtements en coton pour permettre à la peau de respirer, exit le lycra, tout ce qui est de plus mauvais.
Et concernant les irritations et la sécheresse vaginale?
Les produits trop agressifs peuvent irriter la vulve et provoquer des sécheresses vaginales, rendant la région intime plus vulnérable aux infections et inconfort à type de démangeaison. Les savons agressifs, les savons parfumés ou antibactériens peuvent assécher les muqueuses et provoquer des irritations également. Les changements hormonaux tels que la ménopause ou d'autres changements hormonaux selon certaines maladies aussi peuvent entraîner de la sécheresse vaginale. Douleurs pendant les rapports sexuels en raison d'un manque de lubrification par la modification de la glaire cervicale. Tout ça, ça peut entraîner des irritations et des sécheresses. Maintenir une bonne hygiène intime est essentiel pour la santé vaginale, mais la santé tout court surtout. Cela ne signifie pas de se laver excessivement, mais plutôt d'adopter des pratiques douces et adaptées à votre flore. Utiliser des produits appropriés, se laver modérément et consulter un professionnel en cas de symptômes peuvent prévenir de nombreux désagréments et infections. Vous pouvez également en parler avec votre pharmacien car des traitements en vente libre existent et il saura bien évidemment vous conseiller correctement. Une bonne hygiène intime contribue ainsi à votre bien-être global. Mais ce qui contribue à notre bien-être global à tous, c'est Chanson Story.
Alors, quel titre allons-nous... de quel titre allons-nous parler, Anne-Claire? À chaque fois, elle me l'a fait. Chaque semaine.
Je suis perdue.
Chaque semaine, elle me l'a fait, alors que c'est pile au même moment.
C'est... Pardon, en plus, j'étais perdue, j'avais perdu mon petit prompteur.
Ah, c'est mignon.
Oui, voilà. Et en plus, on parle d'un artiste très connu ce soir. On parle de
Michael... Ah oui, il est très fâché. Hein.
Pourquoi?
Bah, parce que tu l'as oublié.
Ah, mais non, vraiment, faut pas. On parle de Michael Jackson avec... Billie Jean a un titre sorti en 1983.
Ça, c'était juste pour le plaisir, mais rassurez-vous, on l'écoutera en intégralité dans un instant. Alors, bien sûr... Billie Jean de Michael Jackson, c'est issu d'album le plus vendu de tous les temps, qu'on ne présente plus, Thriller, sorti en 1982 en tant qu'album. Mais en tant que single, Billie Jean est bel et bien sorti en janvier 1983. Et c'est la sixième piste de l'album Thriller sur 9. Mais je suis sûr que là, comme ça, Anne-Claire, elle va me poser la question, mais qui est cette Billie Jean dans la vraie vie?
Eh bien, qui est cette Billie Jean dans la vraie vie?
Eh ben, on t'écoute, Anne-Claire.
Eh ben, c'est toi qui as fait la chronique.
Ah, j'allais me dire, mais c'est toi, Billie Jean. Ah bon, d'accord, ok. J'ai eu peur.
Tu t'appelles pas Billie, que je sache.
Non, je m'appelle pas Jean non plus, donc j'emporte, mais je m'appelle pas Jean pour autant.
Ah,
non,
mince.
Non, effectivement. On n'a pas de mode beauté, c'est vrai, aujourd'hui, en parlant de Jean.
Eh non, mais j'avais fait un article sur la Jean. Vous pouvez le retrouver, bien entendu, dans nos podcasts sur rdl68.fr et soundcloud.com.
Une animatrice radionnée. Alors, bien sûr, Billie Jean, qui est-ce? Eh bien, c'est une femme. Évidemment, mais qui harcelait Michael Jackson.
Ah bon?
Eh oui.
Il a été harcelé, ce petit.
Elle prétendait que le fils qu'elle a eu était le sien, à celui de Michael Jackson. Elle le suivait partout, en gros, pour essayer de le reconnaître, hein, l'enfant. Elle lui envoyait des lettres. Elle se retrouvait même en maillot de bain à côté de la piscine privée dans l'appartement du chanteur.
Ah oui, quand même.
Bref, un grand cauchemar hein, pour le King of Pop. Il en a très peu parlé hein, publiquement, mais ça le rongeait. Hein. Ça le faisait vraiment peur aussi intérieurement. C'est pour ça que cette chanson, ben, c'est un petit peu une façon façon de lui répondre.
En plus, on sait que Michael Jackson était assez anxieux quand même, donc je me doute.
Ah bah oui.
Je me doute qu'effectivement, avoir une femme comme ça à ses trousses, ça doit être assez inquiétant.
D'autant qu'en plus, si tu traduis le refrain qu'on a entendu hein, tout à l'heure, Billie Jean is not my lover, ça commence comme ça, le refrain en anglais. Mm. Billie Jean n'est pas mon amoureuse, c'est juste une fille qui prétend que je suis le bon, mais cet enfant n'est pas mon fils. Elle dit que je suis le bon, mais cet enfant n'est pas mon fils. On se rend mieux compte hein, lorsqu'on traduit directement le refrain de cette chanson qu'on a tant chantée. Alors à noter que Quincy Jones, qui est décédé récemment, d'ailleurs ce grand producteur hein, de Michael Jackson,
incroyable.
Il voulait renommer la chanson en « Not My Lover ». Pas Billie Jean, mais Not My Lover, parce qu'il avait peur hein, que les gens à lui fassent la confusion avec Billie Jean King, une grande star de tennis à l'époque.
Ah, d'accord.
Comme quoi, ça tient pas à grand-chose, les noms. Hein.
Effectivement, ça tient pas à grand-chose, mais je connaissais pas cette star du tennis.
Eh oui, alors, Jackson savait hein, que cette chanson serait un tube, il en était persuadé. En même temps, heureusement pour lui, il l'a écrite, il l'a composée, il l'a arrangée. Donc, tant qu'à faire, hein. Mm-hmm. Autant que ce soit un tube, surtout quand on s'appelle Michael Jackson. Il crée la musique sur sa boîte à rythme, il enregistre la chanson en une seule prise seulement. Et en 1983, il détient un Grammy Award de la meilleure performance vocale de Rhythm and Blues et meilleure chanson de Rhythm and Blues également. On va bien évidemment continuer à parler de Billie Jean dans un instant juste après l'avoir entendu en intégralité, évidemment, cet immense tube de Michael Jackson. Et puis, eh bien, juste après, une ou deux toutes petites anecdotes encore sur cette chanson. Restez bien avec nous, à tout de suite sur RDL, toujours dans 100% Lifestyle avec Anne-Claire. She just a girl, but I am the one. On ne s'en lasse pas, Claire, de ce Billie Jean.
On ne peut pas s'en lasser. C'est un tube qui traverse les années et qui traversera encore les années. Et la pochette de ce vinyle, que vous pouvez retrouver sur la page 100% Lifestyle sur Facebook, elle est, je trouve, même encore d'actualité. Alors pourtant, le tube est sorti dans les années 80, quoi. Moi, j'aime beaucoup.
Oui, c'est vrai que... Est-ce que tu aimes toujours, surtout maintenant qu'on connaît l'histoire de cette chanson avec Billie Jean qui harcelait Michael Jackson?
Bah, bien sûr, parce qu'il a quand même réussi du coup à en faire une chanson et donc à faire ressortir son angoisse par rapport à cette chanson. Ça montre déjà la force de caractère du personnage.
Et est-ce qu'elle te reste en tête après que tu l'aies écoutée?
Bien sûr. Moi, je la connais depuis ma très, très, très tendre enfance, puisque mon papa était un grand fan, est un grand fan. Ma sœur est aussi une grande fan de Michael Jackson.
Qui n'est pas fan de Michael Jackson, en
les
même temps.
Les deux étaient en pleurs devant la télé pour l'enterrement de
oui.
ce...
On s'en souvient tous, hein.
Oui, même moi, j'étais devant la télé.
On s'en souvient tous. Je pense que en septembre et ça, on doit s'en souvenir comme si c'était hier.
C'est pas le roi de la pop pour rien. Il a inventé tout un nouveau créneau. Et encore maintenant, on surfe dessus. Donc, il restera pour des années. Et des années, c'est un incontournable. C'est, comment on dit, une poupée de cire au musée Grévin, mais pour toute la vie.
Oh bah c'est dans le musée Grévin, Madame Tussaud, et dans, à mon avis, dans tous les musées de cire du monde, hein, New York, Londres, Paris, effectivement, c'est la plus grande star mondiale de tous les temps. Je crois que sur Billie Jean, tu me disais pendant la musique que tu avais une anecdote supplémentaire.
Eh oui, j'ai une anecdote supplémentaire, mais qui ne vient pas de moi, qui vient de, du grand fan que je viens de vous citer. Mon papa, et c'est sur cette chanson qu'il a fait son tout premier Moonwalk.
Oh, intéressant.
Eh oui.
Et est-ce que tu savais que on entend tellement cette chanson et qu'à force, eh bien, on est tellement obsédé par cette chanson parce que c'est vrai qu'elle nous reste dans la tête hein, parfois toute la nuit, que Michael Jackson lui-même a raconté qu'il était obsédé par la chanson peu avant sa sortie. Il l'avait tellement en tête, il avait tellement en tête en fait qu'il n'avait pas vu que la voiture, une de ses voitures, prenait feu. Et c'est un jeune en moto une fois qui s'arrête pour lui dire que sa voiture est en feu. Ça lui a un peu sauvé la vie à ce moment-là quand même parce qu'il était pas très loin de la voiture.
Oh, waouh!
Donc, ouais, comment te dire, Michael Jackson qui est décédé le 25 juin 2009 à 50 ans.
Mais est-il
seulement.
Vraiment décédé?
Bah, physiquement, oui, j'ai envie de te dire. Après ça, on ne le sait pas, ça. Hein. Bah, oui,
Es-tu parmi de la théorie du complot, toi?
Non. Bah, non, non. Ça sinon, Quincy Jones, dans ce cas, qui est décédé en novembre 2024 à 91 ans,
c'est
mais
pareil,
il n'est pas décédé, il est toujours vivant. Enfin,
on n'y
bon,
croit pas.
Il y a un moment, voilà, on pourra peut-être infirmer ou pas notre propre mort. Non, on n'est pas mort, on est bel et bien là, mais non, là, c'est pas possible. Non, là, ouais, non, non.
Je suis d'accord avec toi.
Là, c'est pas possible. Et puis, dis-moi une question que je me pose là, comme ça, tout de suite, Anne-Claire. Changement de sujet radical. Comment sont nommées les tempêtes? Il y a pas une tempête Michael Jackson un jour ou non?
Ah, il y aura peut-être une tempête Michael un jour, ou peut-être a-t-elle déjà eu lieu, mais ça, on ne peut le savoir que dans la question des auditeurs.
Et comme moi, au moins, je n'oublie pas de te poser la question qui est le thème de la chronique. Comment sont nommées les tempêtes, Anne-Claire? Je ne pouvais pas ne pas la faire.
Merci d'enfoncer le clou. Je suis désolée pour tout à l'heure. Je rappelle que j'avais oublié ma feuille magique. Je ne sais pas ce que j'en avais fait.
Avant ça, tu avais oublié tout court de rappeler le titre de la chanson que tu ne te souvenais même plus, excuse-moi.
Oui, c'est vrai, mais parce que je fais deux choses en même temps, moi, pour ce direct.
Ah, bah
c'est
oui.
Pour ça.
Moi, je fais deux choses en même temps, avant et après le voilà. Direct. Mais dis-moi, comment sont nommées les tempêtes alors?
Eh bien, sache qu'en partenariat avec les services météorologiques AEMET en Espagne, IPMA au Portugal et IRM, non, tu ne vas pas passer un examen.
C'est pas la
minute
soignante.
Voilà.
Non, ça veut dire Institut Royal Météorologique, on a vérifié juste avant l'émission.
Météolux au Luxembourg et Météo France, 5 entités, nomment les tempêtes susceptibles de toucher l'un de ces pays.
Mais alors, pourquoi nommer les tempêtes?
Nommer les tempêtes facilite la communication en cas de vent violent, mis en place avec succès en 2016 au Royaume-Uni et en Irlande, puis adopté par les Pays-Bas, ce système a prouvé son efficacité. Les sondages montrent que la population suit mieux les consignes de sécurité lorsqu'une tempête est identifiée par un nom.
Bah, c'est vrai que dans les médias, quand tu dis une tempête, machin, a dévasté tel endroit des États-Unis, j'allais dire, parce que malheureusement, c'est surtout aux États-Unis. Hein. Et puis d'ailleurs, récemment, je crois, il y avait une tempête aux États-Unis. C'est vrai que si tu la nommes pas, c'est un petit peu compliqué d'en parler, quoi. Hein,
tout à fait. Hein.
Et alors, quand et comment nomme-t-on une tempête? À quel moment?
Une dépression est nommée uniquement si elle peut entraîner une vigilance vent d'au moins un niveau orange dans l'un des 5 pays concernés. Le service météorologique émettant en premier l'alerte orange ou rouge lui attribue un nom choisi dans une liste préétablie et informe les autres pays. Ce nom reste associé à la dépression tout au long de son cycle de vie. Les tempêtes provoquées par des vents régionaux comme le Mistral ne sont pas nommées.
Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau.
Je crois que c'est la première fois qu'on passe l'intégralité d'une chanson dans en plein milieu d'une chronique. Quand
oh,
même.
Bah oui, mais en même temps, elle était courte. Et puis, si je mettais pas Georges Brassens avec sa chanson du vent, là maintenant tout de suite, je ne vois pas quand je pouvais la mettre.
Ah oui, en plus, elle date de 1954, cette chanson. Oh, hein. Elle n'a pas pris une ride. Hein.
C'est tout jeune.
Bah oui, parce qu'on n'a pas pris une ride, la preuve, il y a toujours des vents, des tempêtes, hein, voilà.
Et il y a toujours des jupons sur le pont des Arts.
Ah oui, je confirme. D'ailleurs, 1954, excellente transition sur la suite de ta chronique.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui a changé depuis cette année-là?
Eh bien, l'Université libre de Berlin nommait les anticyclones et dépressions européennes. Désormais, les pays partenaires utilisent un nouveau système de nommage destiné aux médias, au grand public et aux partenaires, remplaçant donc celui de l'Université de Berlin pour les services météorologiques.
Donc en fait, c'est quand Georges Brassens a fait la chanson, eh bien c'est à ce moment-là, cette année-là, qu'on nommait les anticyclones.
Cette année-là, on a chanté pour les anticyclones, pardon.
Ah oui, oui. C'est peut-être pour ça que ça se couvre là maintenant tout de suite. Hein, ouais, ça doit être pour ça, Tempête Anne Claire.
Exactement, Tempête Yann.
Tempête... Oh, ça fait nom d'un cheval, ça. Tempête, on donne ça pour le nom d'un cheval. Donc,
Oui, c'est vrai.
Ah oui, bah oui. Côté ces 5 pays, on le rappelle, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg et la France, évidemment, est-ce qu'il y a une coordination qui est limitée ou une coordination totale, dis-nous tout?
Alors non, lorsqu'il est prévu qu'une tempête affecte d'abord le territoire d'Irlande, de Grande-Bretagne ou des Pays-Bas, c'est le nom choisi par ces services météorologiques qui est retenu. Et la réciproque s'applique également dans le sens inverse. Une extension de cette coordination à l'ensemble des pays européens est en projet. Mais là, tout de suite, je voudrais faire une petite aparté parce que comment, ce n'est pas une tempête, mais c'est quand même un dégât fort climatique. J'ai une forte pensée aux habitants du Var qui ont subi des grandes inondations et des orages qui ont pas mal dévasté la région. Donc, une grande pensée à eux et vraiment beaucoup de courage pour pouvoir tout nettoyer et tout rétablir. Surtout que la saison touristique arrive tout bientôt. Et en parlant des touristes, on fait bien entendu un coucou à nos auditeurs, Yann, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, tant qu'à faire. C'est vrai que c'est assez large, hein, la zone touchée quand même, hein, par ces vents, je crois. C'est Aix-en-Provence, Marseille jusqu'au sud d'Avignon, hein, quand même.
Oui,
hein,
tout
donc,
à fait. Oui,
c'est assez large.
Ça a été très très large, effectivement.
Donc effectivement, tu fais très très bien de le dire. On pense très fort à eux, avec des dégâts impressionnants, au Lavandou, hein, notamment. Et franchement, voilà, autant on a une très très grande pensée pour eux et on leur envoie nos meilleures ondes.
Et on envoie nos meilleures ondes à nos auditeurs, bien entendu en Centre-Alsace, du côté donc de Colmar, Herlisheim, on peut aller jusqu'à Guebwiller, en passant aussi par Houssen.
Par Célestat, par près de Mulhouse également.
Jusque Mulhouse. Mulhouse, on arrive jusque Mulhouse.
Jusqu'au nord de Mulhouse, on a aussi de entre Fribourg, je crois, jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges.
Oh là là,
si je ne me trompe pas, donc on salue l'ensemble.
On est partout.
Des auditeurs et puis sur le player aussi,
on
parce que sur le player là, c'est beaucoup plus étendu. Hein.
Mais oui, on fait un coucou sur effectivement le player internet avec tous nos auditeurs de tout le monde et de toutes les régions de France. Et bien entendu, j'ai une pensée particulière pour une de nos auditrices qui nous écoute depuis l'hôpital après avoir subi une pas très belle intervention, mais quand même. Et donc, je lui fais un grand coucou, je lui fais des bisous et j'espère qu'elle se remettra vite pour nous écouter dès la semaine prochaine depuis son canapé.
Merci beaucoup Anne-Claire, effectivement on pense très fort à elle tout comme à l'ensemble de nos auditeurs et nos auditrices. Et puis je crois là maintenant que ce qui est bien aussi dans cette émission, c'est que non seulement on aborde tous les sujets, mais en plus je crois qu'il n'y a pas de transition entre les sujets qu'on aborde quand même.
Non, il n'y a pas de transition, non ça c'est pas possible, parce que en passant de Billie Jean à l'hygiène féminine, aux chutes d'eau et aux tempêtes, maintenant je te laisse annoncer tout de suite qui arrive dans le truc et astuce.
Ah oui, et puis le truc et astuce, c'est pas à moi des beautés comme on le disait tout à l'heure, un truc et astuce, mais s'il y a bien une chose qui reste pareille chaque semaine, c'est bien sûr le nom des chroniques comme truc et astuce. Et aujourd'hui dans ce truc et astuce, c'est bien zoom sur les produits ménagers maison.
Exactement. L'air intérieur peut aussi être, voire même plus, pollué que l'air extérieur. Adopter le do-it-yourself et le fait maison permet de retrouver un environnement plus sain. Fabriquer ses produits ménagers avec une solution écologique, économique et bénéfique pour la santé. Quelques ingrédients naturels et peu coûteux, on crée facilement des alternatives simples. C'est aussi l'occasion de renouer avec un savoir-faire authentique et un retour aux sources. Et les indispensables sont donc, mon très cher Yann ?
Eh bien, on commence bien sûr par le vinaigre blanc, l'incontournable.
Vinaigre blanc, mais attention, achetez le 14 degrés, parce que le 7, ça fonctionne beaucoup moins bien. Apprécié pour ses propriétés brillantes, assouplissantes, désinfectantes, nettoyantes et détartrantes, son odeur forte disparaît rapidement, à condition de ne pas en utiliser 5 litres.
Donc en fait, oui, surtout, oui, donc en fait, les propriétés avec tous les adverbes qui finissent par « ante », quoi, les adjectifs.
Voilà, c'est ça.
D'accord,
exactement.
Ok, on s'est retenu. Le bicarbonate de soude alors aussi ou...
Produit naturel, polyvalent, indispensable pour les recettes ménagères. Il est aussi utile en cuisine, en santé et en beauté. Oui, tu peux l'utiliser pour faire des masques.
Ah, c'est donc pour ça. Voilà, c'est pas un mode et beauté, mais on y revient quand même.
Exactement, on balaye tous les sujets dans 100% Lifestyle.
Ah,
vous
bah
le savez,
oui.
On est toujours là pour vous.
Et puis, dans est-ce qu'il y a aussi un lien mode et beauté avec le savon de Marseille?
Alors,
je pense pas, là.
Non, je vais pas avoir, là, tout
non,
de
suite. Non, mes trucs et astuces, oui, par contre.
Voilà. À condition qu'il soit composé d'huile d'olive 72% minimum et de soude. Là, c'est du vrai savon de Marseille. C'est le plus efficace et un puissant nettoyant, dégraissant et détachant. Vraiment, ça vous détache tout le linge et même ça le rend plus blanc que blanc.
Et après le savon de Marseille, le savon noir, aussi un incontournable.
Sous forme liquide ou solide, le savon noir est un allié indispensable. Seul ou associé à d'autres ingrédients, c'est un puissant dégraissant.
Les cristaux de soude également.
Cristaux de soude plus puissants que le bicarbonate. C'est un excellent anti-calcaire, idéal pour les canalisations, le four et raviver le linge. À utiliser bien entendu avec précaution. N'allez pas me faire toutes vos lessives avec du cristaux de soude. Sinon, jetez tout de suite la machine à laver.
Et est-ce qu'on peut faire toutes nos lessives avec l'argile blanc ?
C'est pas conseillé.
Non, ah,
vraiment
oui.
Pas.
Je me disais aussi.
Sauf si tu veux finir avec des habits pleins de boue. Blanche.
Oui, je confirme. Je posais la question au cas où, mais je pensais bien, oui.
Alors, c'est utile pour confectionner des produits de beauté. Sache que l'argile blanche, pour les produits de beauté, c'est bon pour la peau, pour tout ce qui est de type acné. Mais dans le truc et astuce, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un produit idéal et naturel pour récurer et laver. Et surtout, vos éviers en résine vous diront merci.
D'accord, et ben c'est noté pour l'argile blanche et pour les huiles essentielles alors.
Ah là, pour les huiles essentielles, j'ai une pensée toute particulière pour une de nos auditrices également, mais cette fois c'est une de nos auditrices en Centre-Alsace que je salue chaleureusement. Les huiles essentielles peuvent enrichir vos produits ménagers, mais attention à leur utilisation. Elle, c'est une professionnelle, donc elle sait de quoi elle parle.
Elle est aromathérapeute, oui, entre
autres. Voilà. Car certaines peuvent irriter la peau ou les voies respiratoires. Mais on la fera venir, cette auditrice, pour une spéciale aromathérapie.
Spéciale huile essentielle avec Anne-Claire.
Voilà.
Dans les trucs et astuces.
Oui, tout à fait.
Oh bah écoute, avec grand plaisir, le rendez-vous est pris juste après ça. Anne-Claire, après un bon remix qui nous réveille bien de David Guetta, entre autres, qui est récent hein, puisqu'il est de 2025.
C'était pour te donner un coup de pouce et un coup de boost, surtout pour faire le ménage avec les recettes qui arrivent.
Alors oui, donc je rappelle quand même que ta chronique, c'est les produits ménagers maison. Hein. La chanson s'appelle Never Going Home Tonight. Donc en fait, on ne revient jamais à la maison ce soir. C'est
non,
ça.
C'est ça.
D'accord, donc on ne fait pas le ménage.
Tu as fait la maison tout propre et après, tu ne l'habites plus.
D'accord, ok. Non mais c'est un concept, c'est pour ça que tu nous proposes 5 recettes, hein, histoire de mieux aménager notre maison. Recette numéro 1, le spray nettoyant multi-usage.
Alors aménager la maison avec des recettes de spray, je suis pas sûre, mais la nettoyer, oui par contre.
On ne sait jamais, je ne sais pas ce que tu fais chez toi, donc je préfère mettre des pincettes là-dessus, surtout au vu de tout ce que tu nous racontes chaque semaine.
Ce produit tout en un est parfait pour nettoyer, détacher et dégraisser tous les supports. Je le rappelle, c'est le spray nettoyant multi-usage. Vous remplissez un flacon spray, ou pchit, comme vous préférez, selon comment vous l'appelez, d'un litre avec 75 centilitres d'eau, une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude, deux cuillères à soupe de savon noir. On termine le tout avec 20 centilitres de vinaigre blanc 14 degrés. Pour le parfumer, vous pouvez y glisser des écorces d'agrumes que vous renouvellerez pardon, de temps en temps. Ne me laissez pas ça dans le bidon pourrir, parce que sinon, ça c'est à rien de faire le ménage.
C'est si gentiment conseillé. Et puis la recette numéro 2, le nettoyant pour les sols.
Tu verses 2 cuillères à soupe de savon noir dans un seau de 5 litres d'eau tiède à chaude, mais pas bouillante, sinon bonjour les traces. Si vos sols sont très sales et s'ils nécessitent d'être désinfectés, ajoutez 50 centilitres de vinaigre blanc, encore une fois, à 14 degrés.
Et puis recette numéro 3, le détartrant bien sûr.
Ah là on en a besoin parce que l'eau dans le centre Alsace est très 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 calcaire. Faites bouillir 1 litre de vinaigre blanc et versez-le dans vos toilettes. Attendez au moins 2 heures et passez un coup de brosse avant de tirer la chasse d'eau. Vos toilettes seront propres et bien détartrées. Cette solution est compatible avec les fosses septiques et assainissement individuel également. Vous pouvez également l'utiliser sur les parois de la douche, les robinetteries, tout ce qui est chrome et également dans l'intérieur des lavabos et les bondes aussi.
Et bien tant qu'à faire. La recette numéro 4 également, le dégraissant bien sûr.
Ah, et j'ai dit quoi tout à l'heure? Quel produit est dégraissant?
Oh bah tous les produits d'ailleurs, savon noir.
Merci. Faites bouillir 1 litre d'eau avec 2 cuillères à soupe de savon noir et 2 cuillères à soupe de cristaux de soude. Une fois le mélange bien refroidi, vous pouvez le verser dans un flacon pchit-pchit, encore une fois. Vous pouvez ajouter 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, reconnue pour ses propriétés antibactériennes. Attendez que le mélange soit bien refroidi. Pour ce faire, ne me faites pas ça pour que ça fasse des émanations.
Et enfin, dernière recette, le désinfectant, c'est la numéro 5.
Pour désinfecter vos surfaces, ce produit simple à réaliser est efficace et surtout sain. Faites bouillir 1 litre d'eau, ajoutez 4 cuillères à soupe de savon de Marseille râpé et laissez le tout fondre. Retirez du feu et ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Une fois le mélange refroidi, vous pouvez le verser dans un flacon spray. De nombreuses recettes sont disponibles en ligne. Là, je vous ai fait les grandes lignes. Effectivement.
C'est
en ligne, les
dire.
Grandes lignes. Je n'avais pas prévu, mais c'est un joli jeu de mots. Fabriquez votre lessive, du détachant, des pastilles à lave-vaisselle et encore de nombreuses autres. Tout ça, vous pouvez tout retrouver en ligne. Pensez à porter des gants et des lunettes et ainsi qu'un masque pour votre sécurité lors de la préparation. Parce que tout ça fait des émanations. Même si là, les ingrédients que je vous ai dit de mélanger entre eux n'ont pas de réaction chimique, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Donc, Franchement, protégez-vous. Respectez également toujours les dosages et amusez-vous bien à tout créer. Vous pouvez même en faire des ateliers avec les enfants. Bien entendu, on évite de les faire toucher tout ce qui est produit un peu dangereux, mais si ce n'est que du vinaigre blanc et les faire mélanger avec du savon de Marseille, ça, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, ça serait mieux de le faire en musique. Qu'est-ce que t'en dis ?
Effectivement, merci beaucoup Anne-Claire pour cette très très belle chronique. On se retrouve dans un instant pour le Piégeons-nous. Mais c'est vrai que on est triste, Sam El Bent sur RDL.
Comme un piano qui joue sous ma peau, j'ai caché tous les jours mes sanglots. Je suis né d'un amour qui est tombé à l'eau. J'ai l'envie d'avancer. Les ombres du passé me retiennent. Je suis né condamné à chanter la peine. J'suis triste, pourtant mon cœur cogne encore. Ça s'entend dans mes accords. Moi, y a des larmes dans ma voix. Oh, oh si triste. Chanter l'espoir, moi, c'est écrit dans ma mémoire. Là, y a des larmes dans ma voix. J'suis comme ça quand je tiens le bonheur dans mes mains. Je sais que viendra l'heure du chagrin. Un été se meurt et je n'ai plus rien. J'peux me faire une raison. Quitte à mentir, quelle que soit la saison, je sais sourire. J'suis né sans prison, mais j'ai appris à fuir. J'suis triste, pourtant mon cœur cogne encore. Ça s'entend dans mes accords. Moi, y'a des larmes dans ma voix. Oh, oh si triste. Pourtant j'ai chanté l'espoir, moi. C'est écrit dans ma mémoire, là. Y'a des larmes dans ma voix. Ça se voit de temps en temps, de temps en temps. Je le ressens tout le temps, tout le temps. Ça se voit de temps en temps, de temps en temps. Ça va pourtant. Ça va pourtant. J'suis triste. Pourtant mon cœur cogne encore là. Ça s'entend dans mes accords là. Y'a des larmes dans ma voix. Oh si triste. Pourtant j'ai chanté l'espoir moi. C'est écrit dans ma mémoire là. Y'a des larmes dans ma voix. J'suis comme ça.
C'était triste le dernier single d'Sam El Bent, mais je vous rassure, nous ne sommes pas tristes avec Anne-Claire, puisque voici venu le temps déjà de la dernière chronique de cette émission, et elle s'appelle Le Piégeons-nous. Alors dis-nous tout Anne-Claire.
Une minute chacun pour répondre à la question de l'autre, et c'est Yann qui commence ce soir.
Alors dis-moi tout, toi qui sais énormément de choses, évidemment, nous le constatons comme moi dans le cadre de ce Piégeons-nous, quelle est la particularité de l'américain William H. Harrison aux États-Unis ?
Déjà, il s'appelle William, il a pas de bol.
Ça veut dire quoi, ça ? Oh non.
Pardon
non,
pour
ça,
tous les William qui nous écoutent.
Non, ça, je
vous fais des gros bisous.
Pas, ça. Non, enfin. Enfin, elle sait pas se tenir dans une émission de radio, c'est pas possible.
Tu savais, c'était pas possible, tu savais que je pouvais que la faire.
À l'antenne, non, très sincèrement, non, je pense pas que tu oserais, mais
oh,
bref.
Oh bah si, écoute.
Alors dis-nous tout.
Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que j'y trouve.
Tu voulais une question, voici la question.
Je sais pas, il a une barbe de 12 mètres de long.
Ouais bah non, remballe, non, c'est pas ça.
Il a mangé 15 kilos de pizza.
Oui, bien sûr, non.
Non plus. Non. C'est un américain, donc on imagine tout ce qui est possible.
Oui, mais non.
C'est en rapport avec son métier ?
Oui.
Il a alors en Amérique on travaille dans quoi ? Il y a beaucoup de forêts donc un grand bûcheron ?
Non.
Non, d'accord. Dans le désert, il a trouvé la plus grosse pépite d'or du monde ?
Non.
Non plus.
Mais j'aime bien les propositions. Non, mais bon, comme c'est fini.
Ah, d'accord. Hein, bon,
bah,
voilà.
Bah oui. Non, en fait, il a le record de brièveté à la présidence des États-Unis.
Ah.
Tout simplement. Il a échoué à sa première tentative en 1836. Il bat de justesse le président sortant pour entrer en fonction le 4 mars 1841.
Et il est mort.
Pour y mourir de pneumonie, un mois plus tard, jour pour jour, le 4 avril 1841. C'est magnifique, elle se marre. C'est alors posé la question de sa succession en plein mandat. Et c'est l'une des premières fois où le vice-président, John Tyler, en l'occurrence, remplace le président en y exécutant la quasi-intégralité de son mandat, hein, les 4 ans.
Bah oui.
Mais il ne se représente pas ensuite.
Et voilà. Effectivement, sacrée histoire. Mais moi, j'ai mieux. Et moi, c'est d'actualité, figure-toi.
Oh, mais ça, j'en doute absolument pas.
À quelle date sont nés les impôts?
Ah, effectivement, c'est d'actualité. 20e siècle.
Oh, tu m'en demandes trop.
Bah, dans les années 1900, tu m'as demandé quelle date.
Oui, dans les années 1900.
Dans les années 1950?
Peut-être.
1960?
Peut-être.
Oui, bah, donne la réponse tout de suite. En plus, on est en retard. Si c'est des peut-être, ça ne sert à rien.
Bah, donne un.
Bah,
allez,
non,
un...
là, comme ça,
une
non.
Fourchette. Une
bah,
fourchette.
Non, si tu ne sais même pas me dire.
Bah, si, moi, je sais.
Bah, justement, tu ne m'aides pas, donc ça sert à rien.
Donne une fourchette, allez.
Dans les années 60?
Bon, c'est dans les années 60, ta dernière réponse?
Oui.
Bah, t'en es loin. L'impôt général sur le revenu.
2025.
Ah bah, c'est foutu. On est déjà en train de faire ceux de 2024, donc c'est foutu. Hein. Donc, l'impôt général sur le revenu est créé en 1916. Il modernise le système fiscal pour faire face aux dépenses liées à la guerre. Pour la première fois, il s'agit d'un impôt ayant un taux progressif. Plus le revenu est élevé, plus le pourcentage qui sert au calcul de l'impôt est élevé également.
D'accord. Ah bah, tu vois, 1916, j'aurais pas dit. Ça fait un peu plus de 100 ans, du coup.
Exactement, ça fait un peu plus de 100 ans, mais surtout... Et bah,
ça fait pas 100 ans, là, qu'on va dire au revoir.
Voilà, ça fait pas 100 ans, parce que vous avez entendu la sonnerie, il est déjà plus de 20h. On est en retard, donc on vous fait des gros bisous. Vous nous retrouvez sur soundcloud.com et RDL68 pour le podcast. On se retrouve la semaine prochaine sur la même longueur d'onde et également sur le player internet RDL68.fr. Des bisous tout le monde, à la semaine prochaine. Bisous Yann.
À la semaine prochaine avec très grand plaisir. Salut.
Bisous tout le monde.